Entre cimes et racines, une série d'émissions réalisées par Radio Zinzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Viabilité économique et respect de l'écosystème. Deuxième partie. Dans cette 11e émission, nous nous retrouvons dans le Tarn, en novembre 2012, lors de la rencontre du Réseau pour les alternatives forestières, ou RAF, à Mazagoël, organisée autour d'un chantier mené par des membres du Réseau. Pendant le premier semestre 2012, le RAF a mené un important travail de réflexion collective qui a abouti à une charte précisant entre autres les modalités d'intervention en forêt. Il est alors apparu essentiel de mettre en perspective ce travail de qualité effectué dans le respect des hommes et de la forêt avec les méthodes habituelles d'intervention, méthodes qui apparaissent souvent plus rentables dans une vision à court terme de la forêt. Mais le travail manuel en forêt, éprouvant et souvent peu rémunérateur, la précarité du travail à la tâche, l'éloignement des chantiers ne sont-ils pas des obstacles à la viabilité de ces métiers ? Dans cette émission, nous écouterons 5 participants à cette rencontre, tous impliqués, d'une manière ou l'autre, dans le travail forestier et tous confrontés à la question essentielle, mais pas évidente, comment vivre de cette activité tout en respectant la forêt et ceux qui y travaillent. Commençons avec Étienne Lescure, qui sillonne le Tarn et la région autour avec sa scie mobile depuis de nombreuses années.
Je suis scieur de long mobile. J'ai remis au goût du jour il y a 20 ans le métier qui se faisait à l'époque des scieurs de long avec on va dire du matériel un petit peu plus moderne. J'ai débuté il y a une trentaine d'années dans le sillage. J'étais agriculteur et bon par passion et possédant un peu de forêt. J'ai monté une première scie agrumes sur l'exploitation pour bricoler. Et la première scie que j'ai montée, que j'avais montée en fixe, mais c'était une ancienne scie mobile. Et puis, il y a 30 ans de ça, c'était en 83. Et puis après, bon, petit à petit, au fil des ans, ça m'a passionné de développer cette activité de sillage, vu que j'avais une petite exploitation. Et un jour j'ai eu un petit peu d'argent et j'ai passé le pas en 92, donc j'ai acheté une tête de scie CD, une tête de scie horizontale, et puis j'ai fabriqué toute la partie mobile.
Quand tu as commencé, il y avait sans doute plus de scieries encore, non? De peut-être des petites scieries qui existaient encore. Il y a concentration dans le domaine, non?
Faut savoir que depuis 30 ans, il y a une scierie chaque 3 jours qui disparaît en France. Ça, c'est le chiffre officiel de l'Observatoire des métiers de la scierie. Donc, petit à petit, les petites scieries disparaissent au profit des grosses unités industrielles. Et donc, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire à valoriser le bois localement et des gens qui traditionnellement utilisaient un petit peu de bois, notamment les agriculteurs qui utilisaient le bois qu'ils possèdent pour leur utilisation personnelle. Donc, ils trouvaient de moins en moins facilement des scieurs pour faire ça. Donc, voilà le début de mon activité.
Mais le fait que c'est une scie mobile, et donc ce n'est pas les gens qui amènent le bois chez toi, et c'est plutôt toi tu vas sur place, est-ce que ça change peut-être aussi la relation avec les personnes? Parce que finalement, on peut discuter avec les clients, on peut imaginer peut-être ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec le bois, c'est un peu une autre relation peut-être.
C'est une relation très sympathique. Donc, je me déplace avec ma machine sur un rayon de maximum, je me suis limité à 100 km de la maison parce que j'aime bien rentrer, que j'ai au maximum une heure et demie de transport, de trajet en voiture. Et donc, je demande un minimum de 10 mètres cubes de grumes, qui est au moins une journée de travail pour installer la machine. et je valorise au maximum le bois qu'ont les différents propriétaires en fonction des besoins qu'ils ont, et je cite toutes les essences, et donc en fonction de leur qualité, je leur dis si ça peut faire, si ça peut rentrer dans la réalisation, et je m'adapte. Et en plus de ça, je travaille avec eux, je leur demande leur participation pour empiler les débits au fur et à mesure. Donc c'est une totale collaboration avec les propriétaires.
Alors, avec toute cette expérience, je voudrais quand même venir un peu au thème de... Enfin, il y a un thème de cette rencontre qui est un peu la viabilité potentielle ou réelle ou, voilà, d'un travail dont le réseau pour les alternatives forestières ont considéré comme un travail correct dans la forêt, quoi, qui correspond à un peu à ce qu'on appelle la charte du réseau maintenant. Et il y a beaucoup de gens qui galèrent quand même en essayant de faire un travail bien et sélectif dans tous les différents secteurs de la filière bois, mais ils ont du mal. Et donc, d'où ce débat. Comment tu vois cette question, ce qui est nécessaire en fait pour qu'on puisse bosser vraiment correctement et quand même à peu près gagner ce qu'il faut pour vivre à peu près convenablement, quoi.
Alors je dirais la première des choses pour arriver à vivre convenablement de ce travail, bon, je vais parler plus précisément donc du sillage à façon, vu que je ne me consacre que au sillage à façon, uniquement la prestation de service en sillage pour les gens. Donc ça veut dire que je n'ai jamais voulu faire de commerce de bois, parce que j'estime que s'il y a une valeur, s'il y a un profit à faire sur le bois, c'est le propriétaire forestier. Ensuite, chaque intervenant au cours de là, jusqu'au meuble, on peut aller, jusqu'au meuble en bois, apporte une valeur ajoutée au produit. Donc ce qui fait qu'on boycotte complètement tous les intermédiaires. Ça a été ma philosophie de départ. Et ensuite, pour m'adapter à tout ça, vu que c'est très hétérogène, il faut que j'aille, que je me déplace en forêt au plus près de la ressource du bois, que c'est des bois hétérogènes, il y a du gros, du petit, du tordu, qu'il faut valoriser tout ça, des essences, je cite toutes les essences confondues. Donc, mon deuxième atout, c'est que j'ai construit mon matériel en grande partie. Bon, je me suis fait aider par des constructeurs locaux au niveau, quand c'est de la grosse structure, etc., ou pour calculer certaines charges. Donc, ce qui m'a donné une souplesse d'utilisation, et au fur et à mesure du travail qui est augmenté, je me suis adapté. Si on m'a demandé plus long, je me suis débrouillé pour faire plus long. Et en plus de participer à la construction du matériel, je sais parfaitement comment il est maîtrisé. Je peux en assurer la maintenance du bout au fond parce que je connais tout. Donc tout ça, économiquement, c'est très positif. Et ce qui me permet de bien gagner ma vie dans ce travail. Troisième truc pour que ça marche, c'est que j'ai toujours été en relation depuis le propriétaire forestier jusqu'au transformateur et à l'utilisateur du bois. Donc je sais d'où vient le bois, où il va. Et donc, la valeur de mon travail, c'est justement en connaissant ça, je peux jouer de tous les atouts que possède le bois et les mettre en valeur lors du sillage. Souvent, le chantier, ça part depuis la fin. C'est le donneur d'ordre qui veut construire, qui veut faire une charpente. Et on remonte la filière en cherchant les différents intervenants. Alors je dis, s'il n'a pas de charpentier, je lui indique un charpentier. Et puis on remonte jusqu'au propriétaire de bois. Soit c'est le propriétaire de bois qui coupe le bois, soit on trouve un bûcheron. Et je le mets en relation avec tout ce monde-là. Il choisit. Et moi, je fais juste ma petite prestation, un sillage au milieu. Voilà, j'ai mis tout le monde en relation. Et c'est comme ça que ça marche. Chaque intermédiaire dit son prix de la prestation par rapport au travail qu'il y a à faire. Et on arrive au bout du compte que le prix du bois scié, là, le prix de la charpente du donneur d'ordre, eh bien, elle est moins chère que dans le commerce. Donc on a gagné. Et on a une grosse marge même de manœuvre dans les cas où l'exploitation peut être difficile. On peut rajouter à certains points un petit plus-value s'il y a des problèmes, si quelqu'un ne gagne pas trop sa vie à un niveau. Voilà.
C'est-à-dire que le plus important, c'est que chacun dans cette filière bois ne reste pas isolé. Parce que je crois que c'est quand même un problème dans pas mal de régions, qu'il y a des gens qui galèrent, mais finalement, parce qu'ils n'ont pas cette relation, finalement, d'ensemble.
Tout à fait. Quand on parle de filière bois, qu'est-ce que c'est une filière ? C'est une chaîne et les maillons qui sont attachés. Si un maillon qui n'est pas attaché, la chaîne est cassée, ça ne marche pas. Et bien en fait, quand on parle filière bois, c'est la fumisterie parce que ça n'existe pas. Tout le monde se tire dans les pattes. Alors qu'une filière, ça se tient. Voilà. Et tout le monde est au courant d'où vient le bois et où il va.
Ceci dit, toi, tu parles là de bon, ceux qui ont la chance peut-être d'être dans un coin où il y a des baux du glace, par exemple. Mais ça pourrait être aussi des châtaigniers ou des chênes ou je ne sais pas quoi. Mais des arbres, on pourrait dire assez nobles, où on peut vraiment faire soit des charpentes, soit des meubles ou autre chose. Mais il y a quand même des régions, là, on a vu un coupe, par exemple, aujourd'hui, où il y a quand même beaucoup de... C'est plus jeune, mais c'est quand même un coupe qui est nécessaire pour une forêt qui peut s'améliorer. Mais je veux dire, c'est pas la même valeur qu'on va sortir de cette forêt. Il y a d'autres qui sont dans la forêt méditerranéenne où c'est des chênes blancs et il n'y a pas grand-chose à sortir sauf le bois de chauffage. Donc là, c'est peut-être moins facile à trouver la solution.
Mais il faut, si on se reporte historiquement, dans 100 ans ou plus, les gens... Ils ne transportaient pas le bois. Ils savaient utiliser localement ce qu'ils avaient, la ressource locale. Donc, il faut recopier ce que faisaient les gens à l'époque. Et puis, c'est tout. Et là, je viens souvent dans la plaine du côté Verdun, le Castres. Je suis pas du tout là. Je suis du peuplier. Parce que localement, il n'y a que du peuplier. Si on voit toutes les fermes anciennes, eh bien, c'est des charpentes en peuplier. Voilà. Donc, ensuite, celui qui a du petit bois... eh bien, on va faire du petit bois de chêne ou de châtaignier. Eh bien, on va choisir une construction plutôt avec du colombage. On va pas faire du gros poteau-poutre. Voilà, on adapte, comme faisaient les anciens, on adapte la construction au bois que l'on possède en priorité. Et après, ça n'empêche pas qu'on va acheter ailleurs la poutre maîtresse, éventuellement, si on l'a pas.
Est-ce que tu as le sentiment qu'ici, dans cette région ici, il y a un regain d'intérêt pour, ou d'abord pour utiliser du bois, mais aussi quand même pour des gens qui veulent s'investir comme bûcheron, comme débardeur, enfin dans cette filière?
Alors, le regain d'intérêt pour la construction bois, il y est, mais il est très, très marginal encore. Parce que on entend, il y a l'industrie, mais c'est au niveau national même ou européen, qui a la même mise dessus. Alors on ne parle que quand on prend un magazine sur le bois, sur la construction bois, etc. On ne voit que du produit de luxe, de haut de gamme avec une forte valeur ajoutée, avec une technologie qui fait que il y a que les riches qui peuvent se payer une maison en bois. Et je ne suis pas du tout dans cette philosophie. J'essaye de remettre au goût du jour des choses. Le bardage tout simple en bois brut de sillage. Expliquer aux gens que pour faire une charpente, ce n'est pas obligé de le raboter. Ça ne sert à rien. Le bon charpentier, il sait travailler du bois non raboté. Mais après, au niveau du travail de bûcheronnage, etc., c'est vrai que comme il n'y a que 3 ou 4 acheteurs de bois, de gros industriels sur le secteur, qui chapeautent tout. Donc ils ont du mal à faire leur trou. Il y a, faut dire, sur le massif Mont-de-la-Noire, Mont-de-la-Cône, il y a peut-être 50 à 80 machines de bûcheronnage qui travaillent sur le massif.
Et donc, machine, tu parles machine, abatteuse.
Abatteuse, oui. Donc les industriels, la coopérative notamment, poussent à la mécanisation à outrance. Et donc il n'y a plus la place pour le bûcheron. Il y a difficilement la place pour le bûcheron. Pour moi, la solution, c'est d'aller auprès des propriétaires sylviculteurs et de leur faire remettre au goût du jour le travail bien fait en forêt avec des méthodes plus ou moins douces et essayer de leur mettre, de les faire investir dans ces solutions douces.
On pourrait dire retrouver presque une sorte d'amour, passion pour la forêt, parce que je veux dire, quand on va aujourd'hui... Voilà, et puis peut-être dans d'autres forêts qui sont encore plus mixtes, parce que là c'est un peu mono-espèce, mais n'empêche, On sent que les gens ils veulent vraiment agir pour que la forêt devienne plus belle, quoi.
Oui, ils ont envie d'une forêt belle, mais d'un côté, ils veulent le côté économique aussi. Et donc, et ça ne va pas avec la mécanisation outrance. Donc, il faut qu'ils acceptent de s'investir et de faire un investissement. Et c'est très difficile parce que c'est l'industrialisation qui tire tout ça, qui veut du bois pas cher, qui veut qui impose des délais, qui impose sa volonté au détriment des propriétaires forestiers en priorité.
On était en Dordogne il y a quelques temps là pour une rencontre et le Thibault qui est ici par exemple et d'autres de la région, ils ont dit qu'ils craignent que dans 2-3 générations, il n'y aura plus de bois d'œuvre, qu'il y a maintenant des plantations de bois, par exemple pour le bois énergie. Ils parlaient de robinier, même OGM plus ou moins quoi. Est-ce que tu as le même sentiment ici? Est-ce qu'il y a un risque dans ce sens-là qu'il y a une telle mécanisation, une telle industrialisation qu'on perd en fait cette richesse des feuillus, des forêts mixtes, etc.
Tout à fait, on va vers une industrialisation à outrance sur le secteur, là, à l'image des Landes, où on fait une forêt, on plante une forêt, on fait 2-3 éclaircies, coupe rase à 50 ans. Et on replante. Voilà, c'est la dynamique, mais c'est au niveau national. Hein. François Douglas développe ça parce que les industriels veulent du bois calibré, du bois, du petit bois de 1 mètre cube et demi, 2 mètres cubes. Ils veulent du Douglas de cette dimension parce qu'il est mécanisable du début à la fin. Voilà l'objectif. On mécanise à fond, donc on produit du petit bois. Et donc à l'avenir, il n'y aura plus de bois de qualité. De gros bois de qualité. Et ça se ressent déjà sur le secteur. On a, au niveau du châtaignier, on a exploité le châtaignier en faisant des coupes rases. Bêtement, on a exploité ce que nous avaient laissé les anciens parce qu'eux, ils le travaillaient, le châtaignier, ils faisaient des éclaircies. Et on a exploité tout ça. Et tout ce qui se fait à les châtaigniers, ce sont des coupes rases et les forêts sont abandonnées. Donc, l'avenir, il n'y aura plus de châtaigniers de qualité dans le secteur. Par rapport à cette sylviculture industrielle du Douglas, notamment des résineux, où avec des révolutions à court terme, à 50 ans ou moins de 50 ans, on produit du bois de merde, du bois jeune, parce qu'il faut savoir qu'un Douglas de qualité, il faut qu'il ait au moins 80 ans pour qu'il y ait beaucoup de bois de cœur. Alors on parle de la durabilité du Douglas, mais en fait la durabilité du Douglas, elle est dans le bois de cœur. Et quand on a un arbre qui fait un cube et demi, on a la moitié d'aubier, donc très peu de bois de qualité. Et en plus, le peu de bois de cœur qu'il y a dans un arbre, c'est du bois juvénile, donc qui est de moins bonne qualité que du vieux bois, que dans un Douglas de 10 mètres cubes. Et ça, on l'a plus. Et comment font les industriels pour compenser ça? On sèche, on rabote, on colle, et on fait du collage avec tous les produits chimiques, toute la technologie qui va avec, pour produire des grandes poutres qu'on redécoupe pour faire de l'ossature bois. Voilà. Et donc, ça veut dire que le client final, au lieu d'acheter une matière première qui a poussé toute seule, qui n'a pas consommé de carbone, il achète de la technologie et du pétrole. Alors qu'il croit construire du bois, en bois.
Et il aurait pu aller avec quelqu'un comme toi ou d'autres dans une forêt, et même à la limite choisir les arbres qu'il veut, travailler localement. Et c'est vers là qu'il faut aller.
Mais oui, y a quelques sylviculteurs qui prennent la patience de laisser pousser des gros arbres, qu'on ait des beaux arbres pour faire des beaux sillages. Et je dirais aussi, par rapport à... On parle en construction bois, maison, on ne parle que de maison ossature bois. Pourquoi maison ossature bois? Parce qu'il n'y a que du petit bois. Et donc ça utilise le petit bois, les petits arbres. Alors que traditionnellement, la bonne charpente en pot aux poutres avec des belles fermes, c'est fait dans des gros arbres, des gros arbres de qualité. Et il faut savoir que ça ne revient pas plus cher dans une filière courte. Les gros bois de la belle charpente, en faisant travailler localement des bûcherons et des bardeurs, des charpentiers localement, ça ne revient pas plus cher que le bois industriel qui a fait des kilomètres et qui a été transformé en outrance et traité.
Puis c'est complètement autre chose pour le même. On pourrait parler du tissu social rural. Je veux dire, il y a tout un monde qui partage un peu le même secteur et voilà, c'est toute une autre vie, quoi.
Tout à fait, on fait partie du milieu rural. Et là, le client final, le gars qui se construit la maison, eh bien, dans la version poteau-poutre avec du joli bois, l'argent qu'il a donné, ça a été à des acteurs locaux. Et l'argent, il reste sur place. Il ne va pas dans l'industrie.
C'est donc Étienne Lescure, scieur mobile basé dans le Tarn. Parmi les participants à la rencontre se trouvaient également deux membres de ProSilva, Sven Augier, expert forestier dans la région au nord de Toulouse, et Gilles Thierl, correspondant ProSilva pour la région sud-ouest.
Sven Augier, expert forestier, installé au nord de Toulouse depuis 2000. Je travaille en gestion de propriétés forestières privées, surtout dans le massif pyrénéen. Et j'ai aussi une activité de diagnostic sur les arbres urbains et les arbres de parc ou les arbres de route. Mais effectivement, j'ai une sensibilité, une formation forestière orientée plutôt vers la sylviculture proche de la nature. Et effectivement, membre de ProSilva France depuis de nombreuses années.
D'accord. Vous êtes plutôt du côté de l'Ariège, quoi, non ?
Alors moi, je suis propriétaire forestier en Ariège, le privilège d'être un jeune retraité des services de l'État, aussi membre de ProSilva. Et donc, en tant que propriétaire forestier dans un groupement forestier, certes, j'essaie d'appliquer une sylviculture de la qualité, donc ça c'est synonyme un peu proche de la nature, et en visant à favoriser les arbres qui seront de la meilleure qualité, non seulement pour l'argent, mais aussi pour la pérennité des peuplements, la continuité de l'usine à bois que constitue la forêt.
ProSilva, à l'origine, est né de gestionnaires et surtout de groupes de propriétaires privés en Europe centrale, qui sont très conscients de l'équilibre économique de leur propriété. Et une des idées clés du démarrage à ProSilva, c'est que pour que ma forêt produise bien et me donne de l'argent, il faut qu'elle soit en bon état. Et c'est la qualité biologique de la forêt diversifiée et équilibrée qui garantit que le sol va être le bon outil de production. On ne met pas d'engrais chez nous dans la forêt, hein, où ça se fait dans les landes, mais pas en forêt en général. D'accord ? L'engrais de la forêt, c'est la biodiversité, c'est le mélange des essences, c'est l'humus composé de feuilles d'arbres différents, et ça c'est une garantie de productivité de la forêt. Le deuxième élément, et c'est un raisonnement économique, c'est que si j'arrive à sortir de ma forêt la même chose que le voisin d'à côté, mais en dépensant moins au démarrage dedans, j'aurai une meilleure balance économique. Si je ne suis pas obligé de payer une plantation et que j'ai de la régénération naturelle qui vient toute seule, j'ai déjà gagné de l'argent. Okay ? Donc la sylviculture, qui est effectivement la cheville ouvrière de ProSilva, est un outil, non pas pour faire de la biodiversité, mais pour avoir une forêt qui remplit les objectifs du propriétaire. Et je vous assure que la grosse majorité des adhérents de ProSilva sont des propriétaires privés qui ont besoin, d'une manière ou d'une autre, des revenus de leur forêt. Ce n'est pas seulement des danseuses qu'on regarde et qui sont jolies.
La question d'essayer de voir toute cette question de travail dans la forêt, toute la filière locale, avec, là il y a les scieurs qui sont ici, enfin, des charpentiers, etc., c'est aussi important. Finalement, si on arrive à avoir un beau produit fait localement, et travailler avec des circuits courts, c'est peut-être ça peut être important, non ?
Je vous parlais d'un circuit court, là, deux circuits courts, l'eucalyptus au Portugal. Le propriétaire est aussi le propriétaire de l'industrie qui fait de la pâte à papier. C'est un circuit court. Mais bon, c'est très industriel et ça ne répond pas à un certain nombre de critères paysagers, environnement, naturalistes, on va dire, par rapport à l'identité du nord du Portugal en particulier. Autre exemple un peu plus près, le pain maritime. Alors là, bon, c'est une longue histoire, mais le pain maritime, même si le propriétaire n'est pas superposé avec le détenteur de l'usine de pâte à papier, mais il y a une telle prise d'otage sur tout. Le propriétaire ne fera rien s'il n'a pas de subvention. Les subventions sont décidées par un État qui obéit à des lobbies, qui sont les lobbies industriels. Les entrepreneurs qui travaillent en forêt, qui veulent travailler en forêt, leur matériel coûte très cher, donc ils ont emprunté de l'argent, donc ils sont esclaves des banques, qui sont même gouvernés par les lobbies industriels. Tout le monde se tient, c'est aussi du circuit court. Sauf que, dans ce circuit court-là, on finit par fermer les fabriques de parquet locales. Donc le parquet en pain des Landes, c'est peut-être du pain des Landes, mais il est fabriqué hors de l'Hexagone. Donc le circuit court a une petite bricole derrière. On fait plaquette forestière, ça c'est du circuit court. Oui, mais c'est aucune valeur ajoutée. Enfin, on peut toujours dire que le circuit court, c'est pas toujours un idéal. Le circuit court, et ça, ça a été mon boulot, lié à une économie locale diversifiée, qui répond mieux à la diversité de la forêt et des propriétaires forestiers, parce que là j'ai parlé de grandes forêts en général, ou de forêts homogènes. Quand on est dans le Tarn ou quand on est dans l'Ariège, c'est de la micro-propriété, en majorité, hétérogène sur le plan des essences, hétérogène sur le plan des propriétaires, là, pas là, jeune, vieux, agriculteur, pas agriculteur. Donc il faut avoir des réponses un peu fines, et qui répondent aux critères de durabilité de la forêt. C'est comme ça que la France s'en est tirée en disant « Nous, on a des forêts labellisées PEFC, parce que globalement, tout ne se fera pas pareil partout, puisqu'il y a 36 000 propriétaires dans un département, et que donc, il suffit d'obéir à des grands critères et tout baigne. » Bon, c'est un peu moyen, c'est encore un artifice, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe au label, mais répondre au plus près à des besoins de la société, ou les recréer, on a un petit sieur local, qui répond à des commandes locales de charpente. Eh ben, ça coûterait moins cher au charpentier de commander un truc qui va être fabriqué peut-être en Ariège à partir de bois qui vient de Finlande.
Mais c'est surtout aussi le fait que les gens, il y a une sorte de réseau, des gens qui réfléchissent ensemble un minimum, parce que nous, en tout cas, une des raisons pour la création de ce réseau, c'est qu'il y a des gens qui sont amoureux de la forêt, mais ils n'arrivent pas à en vivre, ils font un boulot magnifique et ils sont trop isolés, ils n'arrivent pas à s'en sortir finalement.
Je crois que l'échange entre les gens, l'échange de savoir ou d'expérience, bon, on parlait du Sud-Est, nous on a notre ami Nicolas Luigi qui est dans le Sud-Est, moi j'avais connu un Pierre de Serval qui doit être bûcheron, qui est passé par l'Ariège. Bon, y a des réseaux de gens qui se connaissent, bon, qui ont d'autres chats à fouetter que de même sur Internet le soir échanger, mais il y a des échanges de savoir qui sont à démultiplier dans la mesure du possible, parce qu'il faut quand même gagner sa vie. Eux, ils sont bien, bien contents aujourd'hui de bavasser, mais ça augmente pas leur rendement. Hein. Donc globalement, il faut essayer de tirer parti de ça, ne pas avoir peur d'aller voir des expériences, et c'est ça, je reviens à Procilva, je suis désolé, mais c'est ce qu'on essaie de faire quand on essaie de faire des tournées régionales, où on va voir un problème, on ne va pas voir tout et n'importe quoi, on essaie de voir un problème. Les gens qui viennent ne sont pas forcément des gens qui ont le même problème chez eux, mais qui viennent puiser des idées ou en apporter. Même si quelquefois, on peut dire que c'est des incongruités. Ils ne viennent pas absorber une vérité révélée ou bien dire « moi, je vais vous expliquer comment il faut faire, vous êtes qu'un con ». C'est « on débat », c'est l'héristique qui domine, on se pose des questions, on continue de s'en poser, on ne prétend jamais détenir la vérité. Ça vaut aussi en aval. Nous, on essaie d'avoir dans nos tournées des gens qui sont des opérateurs, qui sont en aval du geste de marquer tel arbre pour l'enlever ou de préserver celui-là. C'est comment ça va se faire et comment ça va se transformer. Si c'est pour dire « je l'ai mis bord de route, je suis bien content, mais j'arrive pas à le vendre », j'ai quand même perdu.
Je voulais revenir aussi sur les notions de circuit court. On touche là un problème de société. C'est comme aller au supermarché ou aller acheter chez le fermier du coin. Notre mode de vie, majoritairement urbain, ou de propriétaires déconnectés de leur propriété, fait que facilement, on tombe dans le raisonnement investisseur-banque. Dire voilà, il y a ça, ça vaut tant de l'hectare, ça va produire tant. Monsieur le spécialiste de la coopérative, faites tourner la machine. Mais à côté de ça, voilà, et c'est pour ça que notre association existe, reste, il y a quand même beaucoup de propriétaires qui veulent autre chose, sans oublier l'euro. C'est-à-dire qu'il y a les euros, il y a le plaisir et il y a aussi une attention pour la qualité naturelle des forêts. Le circuit court, moi, il me pose un petit peu problème parce que voilà, il marche à une certaine échelle, mais le bois, c'est une matière mondialisée, c'est une matière première. Et le constat que nous avons ici, un petit peu partout, c'est que pour le propriétaire, le bois, il a une valeur résiduelle. On parlait de filière, mais c'est le marché mondial derrière qui détermine combien il va rester quand c'est en forêt. Et ici, dans le chantier d'aujourd'hui, on y est. Le bois, il vaut tant là en bas, mais sur pied, il ne vaut que la valeur du bas moins les coûts d'exploitation. Ici, on m'a déjà dit, il y a eu une volonté d'investissement, hein, mais le circuit court, il peut remédier certaines choses, mais pas tout.
Je crois que c'est complémentaire. Il ne faut pas faire dans le blanc-noir, la dichotomie. Ça le vaut pour l'aspect industriel, les exploitations industrielles opposées aux vertueux circuits courts. Il y a un peu de tout, parce qu'on sort de la forêt, même si on sort une belle grume de pied, il y a tout ce qu'il y a en haut, et ce qu'il y a en haut, il faudra quand même en faire quelque chose. Donc il faut jouer sur les deux, et souvent les acteurs, interlocuteurs de Laval ont tendance à s'opposer les uns aux autres, à dire « hors de moi, hors moi, point de salut ». Cette dichotomie, elle vaut aussi quand on est quand on se pose la question de l'infrastructure pour arriver à exploiter les bois, à les sortir de la forêt proprement. Ah non, surtout pas de piste. Alors on confond piste, tir, etc. Surtout pas d'infrastructure qui permette d'amener des pneus avec un moteur dessus. Ou bien tout piste ou tout route, c'est-à-dire moins de temps de mètre jusqu'à la prochaine route, qui est l'autre extrême. Et surtout s'il y a des subventions. Donc on est à nouveau sur une. Alors qu'en fait. Le propriétaire qui raisonne un peu, qui se balade dans ses bois, on en connaît, même s'il y a une petite parcelle, ben il s'aperçoit que dans un coin, il a besoin d'approcher le tracteur, dans un autre coin, il n'en a pas besoin, donc il va faire avec ce qui existe. Dans un coin, même s'il veut approcher le tracteur, il a une trop petite surface, il vaut mieux qu'il fasse appel à des animaux, parce qu'eux, ils sont plus faciles à déplacer pour faire le petit travail qu'il y a à faire, alors qu'un tracteur ne se déplacera pas s'il n'y a pas un certain volume à sortir et un certain temps de travail. Donc, tout ça... Moi, c'est la dichotomie qui me gêne, où on oppose toujours un système contre l'autre. Alors que nous, ce qu'on essaie de promouvoir avec ProSylva, c'est de dire il n'y a pas une sylviculture ProSylva pour choisir les arbres, il n'y a pas un mode d'exploitation qui s'oppose aux autres et qui est l'idéal et rien d'autre, il n'y a pas une commercialisation qui s'oppose à une autre. Il faut tirer le meilleur parti de tout l'environnement qu'on a. L'environnement en amont des commodités qu'on a de trouver des entreprises compétentes. On fait avec ce qu'on a. On ne va pas inventer des entreprises qui n'existent pas, sinon on garde notre bois sur pied. Hein. Donc, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a en aval. On essaie de favoriser, effectivement, parce qu'en cas de crise des cours mondiaux, on est quand même bien content de sortir quelques bois de valeur pour mettre dans la tirelire, qui sont de valeur parce qu'il existe encore un petit scieur dans le coin, etc. Donc, on essaie d'utiliser toute la panoplie. Je pense que la plupart des entités qui s'intéressent à la forêt, que ce soit des institutionnels, des industriels, des représentants de propriétaires, ne prend que des œillères, un peu comme on met aux chevaux quand même, mais pas à ceux-là, ne prend que des œillères en disant « moi, je ne me sers que de cet instrument-là ». Il y en a plein, il faut accepter de les connaître et de s'y familiariser.
J'aurais une dernière question qui n'est peut-être pas tout à fait directement à voir avec tout ça, mais la dernière émission que nous avons faite, c'était par rapport à l'énergie bois, et avec des bons et des mauvais côtés. Et voilà, on entend parler de plus en plus de très très grosses unités, par exemple la Gardanne, Brignoles, avec des énormes quantités. Et est-ce que vous pensez, en gros, c'est une chance, vous, dans votre travail, ou est-ce que vous pensez qu'il y a des réels risques pour les forêts et de cette nouvelle engouement pour le bois énergie?
Moi, j'aurais le même raisonnement que tout à l'heure parce que je vais devoir m'en aller. C'est là, le bois énergie est un débouché comme un autre qui présente quand même un certain nombre de défauts parce qu'il est moins énergétique à la limite par rapport au carbone émis que d'autres combustibles. Mais bon, pourquoi pas, sauf qu'il ne faut pas miser en disant le bois énergie sauvera tout, parce que de toute façon il n'est pas à payer. Il est pour arriver à entrer dans les chaudières, et vu le prix des chaudières, de transport, de la transformation, plaquettes, machin, bitume, il ne faut pas qu'il soit payé au propriétaire. Donc dire au propriétaire, le bois énergie va être le salut pour vous, c'est aussi une escroquerie. Parce que globalement, il ne vaudra rien. Il ne vaudra rien son bois sur pied s'il fait de l'énergie. Si on fait de belles billes de pied, on ne sait pas si on les vendra pour faire des mâts de bateau, pour faire des produits d'élite qu'on vendra en Chine ou ailleurs. Mais on sait que si on n'arrive pas à faire ça, au dernier, on pourra faire du bois énergie à l'arrière. A l'inverse, si on fait que des petits bois, parce que c'est le bois énergie, c'est le bois énergie, on n'aura jamais de quoi faire des mâts de bateau et des bois de qualité. Donc, raisonnement économique de dire, attention, c'est un instrument comme un autre, mais il doit rester à sa place et ne pas être la vogue de l'énergie du futur, parce que alors là, c'est un contresens. Il y a un document fait par Philippe... j'oublie son nom. Je vais le retrouver. Le Turc, Philippe Le Turc, qui doit se trouver sur Internet, qui fait l'analyse exacte, chimique, en fait, du bilan carbone de la combustion du bois par rapport au tout le reste. Ça fait un peu peur, hein.
C'était donc Gilles Thierle et Sven Augier, tous les deux membres du réseau ProSylva. Pour Marco Denis, débardeur à cheval, c'est la deuxième fois qu'il participe à une rencontre du réseau pour les alternatives forestières. En novembre 2010, il avait déjà participé à un chantier rencontre en Dordogne. À l'époque, il faisait partie d'une petite entreprise de travaux forestiers avec deux autres débardeurs à cheval.
Avec mon collègue Jean-Yves Boudin, on a travaillé longtemps ensemble pendant 8 ans. Il y a M. Frédéric Fardou qui nous a, d'EcoSylva, qui nous a rejoint en cours de route. Et avec nous trois, on a essayé de, dans le contexte forestier du Limousin, qui est un contexte au niveau économique qui est assez difficile. Donc on a essayé de, grâce à nos complémentarités de nos compétences, notre matériel, on a essayé de éviter tout déplacement excessif avec les chevaux. Et malheureusement, la crise est arrivée par là. Donc le bois ne se vendait plus, donc on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau parce qu'on n'a pas su anticiper cette crise due à notre incapacité, en quelque part, de créer un tissu social fort là où on était. C'est assez compliqué de créer ces tissus sociaux du propriétaire au transformateur. Donc cette crise est arrivée, donc le bois s'est plus vendu, donc on a été obligé de se redéplacer. Et dans cette logique-là, j'ai préféré arrêter, parce qu'il y a une certaine viabilité économique à prendre en compte, mais il y a aussi le domaine humain et éthique à prendre en compte à mes yeux. C'est que mettre les chevaux dans les poids lourds et faire des milliers de kilomètres par an, pour moi, ça n'avait plus de sens. Éthiquement, c'était très difficile. Donc j'ai préféré arrêter mon activité et penser différemment mon activité et faire plutôt une activité, une pluriactivité, mêlant le maraîchage biologique, parce que ça coule de source, en traction animale, et avoir une activité forestière l'hiver localement. Et j'espère que ça va me permettre de me fixer un endroit et pouvoir créer un tissu social qui va me permettre de plus me déplacer et qui rentre plus dans ma sensibilité.
Mais comment ça se fait que le Limousin, c'est tellement bas les prix pour le bois? En fait, c'est très différent par rapport à d'autres régions.
C'est différent parce que la région Limousine n'est pas une région forestière à l'origine. C'était une forêt très très jeune, donc il y avait très peu de forêt il y a de ça un siècle. Donc il y a eu un fort enrésinement et l'industrie de la pâte à papier, l'industrie de l'emballage, c'est-à-dire les palettes, sont arrivées et ça a été très très fortement mécanisé dans tout ce qui est exploitation résineuse. Donc ils ont éliminé l'humain pour le remplacer par des machines, tout ça pour un coût de rentabilité. Nous, on travaille dans un petit secteur qui est l'amélioration feuillue. C'était du rattrapage surtout civicole. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires se tournaient vers nous pour répondre à des questions techniques, parce que le cheval a ses qualités intrinsèques qui lui sont propres. Mais après, on n'a pas réussi à percer dans le milieu, vraiment l'univers de la transformation, les petites scieries, tout ça, on n'a pas assez insisté sur ces points-là. Et Et après, on ne peut pas être bon partout, quoi. Voilà, moi je suis forestier, je ne suis pas commercial, donc ce problème de communication à pêcher là-dessus, c'est, je pense que c'est relativement dû à notre faute. Et Limousin est bas au niveau tarif parce que c'est fortement mécanisé, que l'industrie mène les prix très très bas, donc c'est difficile d'avoir des prix où on puisse travailler honnêtement. Et après, j'entre un peu dans une polémique... au niveau des subventions également, c'est qu'ils aident vraiment les gens à se mécaniser à outrance. C'est des machines qui sont financées à 40% minimum. Donc le prix bord de route est quand même assez erroné par rapport à notre prix, parce que d'une part, ces machines-là sont quand même financées. Si on avait ce financement, peut-être que le prix de l'Ester bord de route serait différent.
Aussi, je crois, les pistes et tout ça, parce que ça, c'est aussi des choses qui coûtent cher si on veut emmener des grosses machines, et ça aussi, c'est très fortement subventionné. Hein.
Oui, l'ouverture de pistes est financée. Pour moi, en tant que forestier, je pense que l'ouverture de pistes est un petit peu obligatoire pour la gestion, même si on fait une gestion alternative ou douce. Je pense que l'accès aux parcelles forestières, c'est un petit peu obligatoire. Je préfère que les financements sur les pistes soient financés que le financement des grosses machines.
Donc ici, c'était le thème de cette réunion, c'était un peu la viabilité, la possibilité de travailler d'une manière correcte selon un peu la charte du réseau, mais tout en gagnant un tout petit peu, ça coûte si on veut, mais... On a bien dit qu'il n'y a pas que le côté financier. Donc, si j'ai bien compris dans ton cas et tes amis, c'était moins finalement, à la limite, vous pourriez peut-être gagner votre vie, mais en allant loin. Et c'était vraiment cette histoire de réseau, de filière locale qui manquait. Et puis, voilà, c'est surtout ça en fait.
Oui, c'est surtout ça, parce que mon activité économiquement était viable. Il fallait juste faire beaucoup de milliers de kilomètres, avoir un peu moins de vie de famille. Donc ça me convenait plus. Voilà, c'est qu'on a pêché à un endroit, et ben voilà, faut s'en rendre compte. Et je pense ça pas comme un échec, mais plutôt comme une remise en question. Bon, ici c'est un chantier qui était quand même assez technique au niveau du débardage. Et ce qui a été positif, c'est que les forestiers ont été positifs sur ce type de chantier.
Les forestiers, ça veut dire les professionnels du coin?
Oui, les professionnels de l'endroit ont eu un regard positif. Il n'y a eu que des choses positives, en fin de compte. Donc c'est déjà assez encourageant. En Limousin, c'est possible, quoi. Il faut juste avoir les bonnes personnes au bon moment et se bouger, en fin de compte.
Pour conclure, écoutons François Bonnevial, qui fait partie d'une petite entreprise coopérative de travaux forestiers d'Arbre à Z.
Ouais, alors en fait, c'est en Bourgogne, c'est sud de la Bourgogne, on travaille sur le secteur de Cluny et Mâcon. Donc c'est effectivement une SCOP, voilà, qui a été créée pour essayer de travailler autour des arbres, donc au début, ça s'appelait Arborescence et on a changé de nom, ça s'appelle D'Arbre à Z pour essayer justement de travailler sur la globalité de l'arbre, quoi. Aussi bien l'arbre urbain que l'arbre forestier, et puis avec le côté environnemental et aussi gestion et production de bois et valorisation des produits issus du bois, quoi. Donc là, actuellement, en fait, on est deux. On était trois jusqu'à il y a peu. Le nombre de personnes, c'est un petit peu un problème parce qu'on était parti sur quelque chose de... sur une idée un petit peu d'une plus grosse équipe, et bon, on a quand même du mal à pérenniser le travail ensemble sur le long terme, sachant que la naissance d'Arbre à Z, c'était suite à une réflexion par rapport à une autre activité, puisqu'on est en pluriactivité, autour d'un parc aventure en fait qui fonctionne l'été, sur lequel on est jusqu'à 8 salariés en pleine saison, et donc l'idée c'était de pérenniser un maximum d'emplois sur une filière locale, et donc de trouver une activité hivernale. Et vu qu'on était très intéressé par les arbres, cette idée de travailler autour de l'arbre avec les compétences qu'on avait, entre autres en élagage, démontage, et puis élargie à la forêt, voilà, nous ont donné l'idée de créer Arbre à Z. Bon, après, c'est vrai que sur la durée, c'est pas du tout évident d'avancer ensemble dans ce projet. D'une part par la complexité et d'autre part par la difficulté relative quand même du travail, quoi, qui fait que ça correspond pas toujours le terrain aux attentes qu'on peut se faire de la forêt.
Oui, parce que dans cette rencontre, nous avons pas mal évoqué ce thème viabilité, mais viabilité non pas uniquement vu de point de vue financier. Évidemment, c'est important, rémunération et tout, mais bon, il y a d'autres éléments, comment on arrive à travailler ensemble, enfin, quel plaisir on arrive à trouver là-dedans, est-ce que ça satisfait ce qu'on imaginait. Alors, si pour le moment il y a des difficultés, c'est lesquelles les raisons probablement les plus importantes?
Et ben, je pense que face à la difficulté physique du travail, effectivement, il faut en compensation mettre un plaisir. Et les rémunérations qu'on peut espérer de ce travail ne sont pas non plus très élevées. Et je crois qu'il faut arriver à mener une réflexion globale pour en gros se satisfaire aussi du travail qu'on mène et du résultat qu'on peut obtenir. Et bah, tout ça, c'est une réflexion très globale sur ses idées, sur ce qu'on attend de la société, de son travail, de la forêt, de l'environnement. Et je pense qu'il faut quand même être très très avancé dans cette réflexion pour tenir et pour s'épanouir aussi dans l'activité. Parce qu'effectivement, si on a une vision un peu superficielle, je crois qu'on se fait assez vite submerger, voilà, par les difficultés techniques, les difficultés physiques, voilà.
Mais dans la zone où vous êtes là, Cluny, Mercon et tout ça, est-ce que vous avez un peu le sentiment que trouver d'autres collègues, une sorte de mini-filière ou quelque chose qui existe?
Bah, je crois que la mini-filière, je pense qu'elle est tout à créer. Je crois que les gens sont assez intéressés. Nous, on a la chance, de par le parc Acrobat, d'avoir un lien direct avec le grand public. Et c'est vrai que dès qu'on parle de forêt, on sent que ça intéresse les gens. Après, avec le milieu professionnel même, on a assez peu de contacts. Du fait qu'aussi, on est quand même assez petit et on a du mal à répondre, par exemple, aux besoins de grosses scieries. On a rarement de très gros lots de bois. Donc voilà. Par contre, on fait pas mal de bois de chauffage. Et du coup, là, pareil, on a un contact avec les clients avec un bon écho sur le travail qu'on peut faire, quoi. Parce que je pense que les clients sont demandeurs quand même de savoir ce qui se passe en forêt. Et la filière traditionnelle, en tout cas prédominante, on va dire, et pas très transparente, quoi.
Vous êtes plus en forêt, finalement, ou vous trouvez beaucoup, pas mal de gens élagage, démontage en ville?
Alors, on fait beaucoup d'élagage, démontage en ville, effectivement. C'est même la partie prépondérante du chiffre d'affaires. Bon, au niveau justement de l'organisation de filière, c'est quand même beaucoup plus simple. Souvent, c'est des chantiers qui se passent dans une journée. Donc, l'organisation est beaucoup plus simple quand on se lance sur un chantier forestier. On est très vite confronté au problème des débouchés, des temps de réalisation, des intempéries. Là, on entre dans une complexité qui demande à se structurer, qui demande du monde, et c'est pour ça que du coup sur la forêt on avance à petits pas. Pourtant on sent qu'il y a un gisement de travail qui est énorme, et donc l'avantage par rapport à l'arbre urbain où on est sur des petits chantiers, c'est que je pense qu'en forêt on peut trouver très facilement des quantités de travail importantes, alors que tout ce qui est autour de l'arbre urbain, ça reste assez fluctuant. Et du coup, c'est difficile de développer, je pense, une entreprise de relativement grande envergure, surtout si on n'a pas pour objectif de se déplacer à travers toute la France sur de l'arbre urbain. Et donc la forêt, je pense, vient un très bon complément pour ça, parce que justement, on peut amortir les temps de travail. Voilà, quoi, on a du travail sur des élagages, des montages, on le fait. Il y a un creux de commandes, on peut aller travailler en forêt, parce qu'en forêt, il y a tellement à faire qu'on aura toujours du travail, quoi.
Et c'est quoi? C'est des forêts, vous êtes en contact avec des propriétaires, ou vous gérez en quelque sorte certaines forêts, ou c'est où vous travaillez avec des experts forestiers qui font des plans de gestion et qu'ils vous embauchent en quelque sorte, ou vous cherchent, comment ça se passe?
Alors, bah, au début, on a acheté des coupes ONF, quoi, donc sur lesquelles on n'avait aucun regard sur la gestion. Maintenant, on essaye de travailler avec des privés, plutôt des petits privés, c'est toujours pareil, on travaille avec ce qu'on a les moyens de faire. Et donc là, on fait tout, effectivement, gestion, exploitation, valorisation des bois. Donc voilà, on se rend plus vers ça pour le moment parce que c'est à notre échelle aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on travaille sur des parcelles qui font 4-5 hectares. Voilà, on en fait une ou deux par an.
Et la relation avec les propriétaires en général, ça se passe plutôt bien. Je veux dire, à ce qu'ils comprennent, ils discutent avec vous, enfin, comment ils imaginent et comment ils veulent voir le forêt développer.
Bon ben, notre entreprise elle est quand même très marquée idéologiquement. Donc bon, déjà les propriétaires qui viennent nous voir ont quelque part forcément une sensibilité. On les recrute un petit peu par bouche à oreille, par réseau. Donc c'est quand même des gens qui ont envie de valoriser leur forêt autrement que uniquement financièrement. Donc voilà, on a un peu la chance de tomber sur des propriétaires qui ont cette sensibilité. Bon, par contre, c'est vrai que c'est un travail de réseau de longue haleine parce que ça, depuis qu'on existe, voilà, on n'a pas pu démarrer tout de suite avec des propriétaires. Il faut un petit peu faire ses preuves, un petit peu montrer et après les gens viennent vers nous. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand un propriétaire nous demande d'exploiter sa forêt, ben, on lui explique d'abord comment on travaille. S'il accroche, et ben, on essaie d'aller plus loin. S'il accroche pas, voilà, on prend pas le temps de... Voilà, on ne va pas aller faire une coupe rase pour lui faire plaisir, quoi.
Dans le Drôme, il y a des gens qui ont créé des associations comme Dryade et autres qui essayent d'aller vers une espèce de voilà, association qui pourrait être comparée à un AMAP, mais pour le bois, et qui ont aussi organisé pas mal des réunions publiques, où ils ont parfois été assez nombreux pour essayer d'expliquer la thématique et tout ce qui est derrière, hein, quand on parle de forêt, quoi. Et le travail du bûcheron, en fait. Est-ce que vous avez pensé à faire ça ou...
Oui, donc nous, on le fait déjà à travers des animations, entre autres sur le parc Acrobat. On accueille, par exemple, des groupes scolaires. Donc, initialement, c'est pareil. C'est des gens qu'on a accrochés par l'activité parc aventure. On s'est élargi, entre autres, avec des partenariats avec la Galerie du Bois. Et du coup, bah, dans le cadre scolaire en particulier, on a une approche qui est plus large sur la forêt, même si l'activité sportive reste importante pour nous. Et bon, l'an dernier, par exemple, on a une école qui est venue uniquement pour qu'on leur parle du travail en forêt, et avec qui bon, on leur a montré l'abattage, le travail du bûcheron, on a débardé avec un cheval. Donc voilà, on fait des animations aussi plus grand public. Et là, on est en train d'essayer de travailler dans l'idée d'AMAP un petit peu avec les jardins de Cocagne, mais c'est vraiment un début de discussion pour que justement les gens puissent en gros avoir du bois à disposition dans les mêmes conditions qu'ils ont leurs légumes. Moi, je pense que c'est essentiel que les gens s'emparent de la forêt, comprennent et se cachent pas derrière justement des labels, des normalisations qui finalement... Les exonèrent de leur implication et voilà quoi, en fait ils ont à bon compte un semblant de label qui des fois correspond pas du tout à ce qu'ils attendent effectivement de la forêt quoi. Par rapport au prix, moi ce que je cherche plus au RAF c'est justement le prix non marchand et je pense qu'à terme, de toute façon, c'est les choses à développer parce que c'est une plus-value qui est très difficile à appréhender, qui est pas du tout quelque chose qu'on a l'habitude de partager. C'est vrai que si on se cantonne à la viabilité économique, et bon, on se rend vite compte, et puis c'est plutôt positif parce qu'on est toujours dans des optiques de progrès, que finalement si on se cantonne à l'économique, on va toujours vouloir plus d'argent, et au final ça peut nuire à la gestion, alors que si on met en parallèle une valorisation humaine, éthique et écologique, et ben on... Voilà, je pense qu'on s'ouvre des potentialités beaucoup plus larges dans le développement forestier. Et bon, c'est clair que pour moi, le RAF, c'est important parce qu'on on arrive à, avec une réflexion commune autour de ces idées, à les formaliser et quelque part à partir nous-mêmes avec une idée plus claire de ça. Et je pense que pour moi, c'est un outil important pour le faire partager. Et moi, je vois notre développement dans ce partage d'idées, quoi.
C'était Viabilité économique et respect de l'écosystème, la deuxième partie. C'était donc la 11e émission dans la série Entre Cime et Racines, réalisée par Radio Zanzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Pour savoir plus sur le réseau pour les alternatives forestières, vous pouvez consulter le site suivant www.reseau-relié.org où il faut chercher la page forêt. Vous pourrez y trouver ces publications, les comptes rendus des rencontres du réseau ainsi que sa charte qui définit ses objectifs et son approche aux activités forestières. Il est également possible d'écouter ou télécharger les émissions déjà réalisées dans la série Entre Cime et Racines.